Alors, sans tarder, je vous présente Mariko Chartier-Otis, qui fait son doctorat en psychologie à l'Université du Québec, puis qui a travaillé à partir des résultats ici pour sur une formation pour des pères aidants, pour les impliquer dans le traitement. Alors, Mariko.
Donc, bonjour, comme Michel l'a dit, je m'appelle Mariko Chartier-Otis, puis je suis étudiante à l'UQAM au doctorat. Donc, ma présentation va porter sur l'utilisation du web pour améliorer l'accès au traitement des personnes souffrant de troubles anxieux, plus spécifiquement le trouble panique avec agoraphobie et l'anxiété sociale. Avant de commencer, je veux juste noter qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, tout d'abord, on sait que parmi les troubles anxieux, le trouble panique avec agoraphobie et l'anxiété sociale sont les plus répandus et qu'ils ont une caractéristique importante, c'est que ces personnes-là ont des comportements d'évitement qui peuvent venir influencer la recherche de traitement. Donc, malgré le fait que des traitements reconnus, la thérapie cognitivo-comportementale, il y a des difficultés importantes au niveau de l'accès. Ce que vous avez pu aussi, qui vous a été présenté là ce matin. Donc, il y a plusieurs études qui ont porté justement sur les obstacles au traitement chez ces personnes-là. Donc, il y a eu, par exemple, au niveau des obstacles identifiés, la peur du jugement social, le fait de ne pas savoir quoi dire, tout ça, donc aussi au niveau financier. Donc, il y a eu beaucoup d'études sur les obstacles au traitement. Donc, comment faire pour améliorer l'accès aux services? Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a la vidéoconférence, les traitements à distance, tout ça. Mais il y a aussi l'utilisation de questionnaires sur le web pour rejoindre des personnes qui sont peut-être plus difficiles d'accès à cause des comportements d'évitement ou d'agoraphobie. Donc, comme le disait Michel, c'est une stratégie qui nous avait été proposée par Phobie Zéro, qui offre des groupes de soutien, puis ils ont aussi un site Internet qui est énormément consulté là, par leurs membres. Donc, c'est ça. Comme je disais, les personnes qui vont aller sur Internet, des fois, peuvent avoir des difficultés particulières que les gens auraient, qui consulteraient les services de santé. Il y a une étude d'Erwin et collaborateurs qui montrait que les personnes souffrant d'anxiété sociale avaient des symptômes plus sévères que les gens qui avaient répondu à un questionnaire en clinique spécialisée. Une autre stratégie qu'on peut utiliser pour améliorer l'accès aux services, c'est l'utilisation de pères aidants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pères aidants? C'est des personnes qui ont déjà souffert d'un trouble, puis qui peuvent, dans le fond, faire bénéficier de leur expérience à quelqu'un qui souffre d'un trouble. Donc ça a beaucoup été fait chez les personnes, les personnes qui ont des troubles sévères et persistants, comme la schizophrénie, les troubles psychotiques, puis aussi en plus, au niveau de la santé physique, donc le cancer, etc. Donc très peu a été fait avec les troubles anxieux. Donc, évidemment, l'intervention doit être basée sur une formation spécifique et sur les préférences de la clientèle visée. Il y a une étude de Michel qui avait été faite avec les usagers d'héroïne, et puis ces personnes-là avaient accès à un pair aidant, mais n'avaient pas utilisé le service parce que ça ne correspondait pas à leurs préférences. Donc, d'où l'intérêt d'aller voir les préférences des personnes souffrant de troubles paniques avec agoraphobie et d'anxiété sociale. Donc, l'étude était exploratoire. Donc, les trois objectifs, c'est d'utiliser le web pour recruter nos participants, puis de développer une formation à partir de nos résultats. Ensuite, de déterminer l'intérêt des participants pour une formation de pairs aidants. Donc, l'intérêt à utiliser le service, mais aussi l'intérêt peut-être à devenir pairs aidants. Et puis, finalement, d'examiner les étapes menant à la formation de pairs aidants. Donc, pour la présentation que je suis en train de faire, on a sélectionné un sous-échantillon de 207 sujets à partir des 704, je pense. 714. Que Michel a présenté. Donc, pour dans le fond, être inclus dans l'étude, les personnes devaient avoir déjà reçu un diagnostic de trouble d'anxiété sociale ou de trouble panique avec agoraphobie par un professionnel de la santé, être âgé de 18 ans et plus, être francophone ou anglophone. Puis, au niveau des critères d'exclusion, on prenait pas les personnes qui avaient un trouble psychiatrique sévère et persistants comme la schizophrénie, troubles affectifs bipolaires ou psychotiques, et puis les personnes qui résidaient à l'extérieur du Québec également, étant donné que le système de santé est différent, ça peut venir influencer là, la recherche de traitement. Donc, le questionnaire utilisé, c'est un questionnaire qu'on a construit nous-mêmes, qui portait sur les obstacles au traitement. Puis, bon, les sections, Michel les a déjà présentées. Moi, je m'attarde plus sur la dernière section du questionnaire, qui porte sur le fait de devenir par aidant. Donc, cette section-là comprenait des questions sur l'utilisation d'un service de par aidant si les personnes avaient accès à un tel service. Ensuite, on s'intéressait à leur expérience en tant que par aidant dans un groupe de soutien parce que des groupes dans la communauté qui vont donner un rôle plus important à certaines personnes au niveau de l'animation. Ensuite, on s'intéresse aussi aux différentes modalités concernant le fait de devenir par aidant, comme la rémunération, est-ce qu'ils désiraient être rémunérés, combien d'heures ils étaient prêts à consacrer à l'activité par semaine, leur intérêt à recevoir une formation pour les aider à accompagner les personnes souffrant de TPA et de TAS, et puis s'ils désiraient être supervisés dans leur rôle de par aidant. Donc, au niveau du recrutement, on a mis des hyperliens sur plusieurs sites Internet avec une annonce qui invitait les gens à participer à l'étude. Donc, ce qui est intéressant, je ne vais pas toutes les renommer parce que Michel les a déjà dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a recueilli une grande majorité des participants grâce à deux sites qui offrent des groupes de soutien. Donc, Phobie Zéro et Revive, qui a permis d'avoir un bon grand nombre de sujets. Donc, la durée du recrutement était de 5 mois. Donc, c'est pas exactement ce que Michel a présenté parce que je me suis concentrée plus sur quelques participants. Puis, au niveau bon, des réponses qu'on recevait des questionnaires, ils étaient envoyés automatiquement vers un site web sécurisé qui est sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec à Québec. Donc, les réponses étaient envoyées directement dans une banque de données SPSS qui pouvait nous être envoyée. Donc, si on regarde les caractéristiques sociodémographiques du sous-échantillon, on a beaucoup plus de femmes. Donc, ça représente ce que Michel avait dans le plus grand échantillon. Au niveau de l'éducation aussi, là, c'est très scolarisé. Mais j'entendais une présentation hier de quelqu'un aussi qui avait des gens très éduqués dans son échantillon web. Donc, je me demande si c'est quelque chose qui se retrouve régulièrement dans les études. Au niveau du statut civil, donc, la majorité sont soit célibataires ou en union de fait. Maintenant, au niveau des caractéristiques diagnostiques, donc on voit que la majorité souffre de troubles paniques avec agoraphobie. 41,5% souffrent d'anxiété sociale. Il y a une assez haute comorbidité là, entre ces deux diagnostics-là, avec 30,4% de notre sous-échantillon qui ont à la fois les deux diagnostics. Pour ce qui est des comportements d'évitement, donc plus de la moitié là, rapporte avoir des comportements d'évitement, donc de la difficulté à se déplacer dans certains endroits par crainte d'avoir des attaques de panique. Et 35,4% ont besoin d'être accompagnés dans leur déplacement. Pour ce qui est de l'interférence dans le fonctionnement quotidien, donc travail, loisirs, etc. Il y en a 56,7% qui rapportent des difficultés à ce niveau-là. Et la comorbidité avec la dépression est de 61,8%. Ensuite, on s'intéresse aussi à la durée moyenne entre l'apparition des premiers symptômes et la première consultation. Donc, pour le TPA, c'est d'environ 4 ans. Puis pour la phobie sociale, c'est d'environ 6 ans. Donc, c'est à peu près ce qu'on remarque dans la littérature. C'est peut-être légèrement inférieur à ce qu'on peut retrouver. Mais en même temps, il y a des études qui montrent que quand il y a une comorbidité de dépression, les gens vont être amenés à consulter plus rapidement. Puis on voit que dans l'échantillon, il y a quand même 61,8% qui en souffrent. Si on regarde maintenant les résultats au niveau de l'intérêt pour une formation de parrain aidant, donc il y en a près des deux tiers qui seraient intéressés à recevoir un service de parrain aidant pour les aider dans leurs difficultés. Puis sur l'ensemble des 700 participants, il y en a un tiers qui aimerait devenir parrain aidant. Donc c'est quand même beaucoup. En ce qui concerne leurs préférences pour les modalités de la formation de parrain aidant, la majorité ne souhaiterait pas être rémunérée. Plus de la moitié serait prêt à consacrer 1 à 2 heures par semaine et le reste serait prêt à recevoir plus de 3 heures par semaine. 87,7% seraient prêts à recevoir une formation et puis 88,2% voudraient être supervisés. Donc, ce que ces résultats-là nous montrent, c'est que les participants montrent un intérêt élevé à devenir parrain aidant et une motivation à s'impliquer auprès de personnes en difficulté. Donc, ça, c'est ce qu'on a sur le web, mais en réalité, ça donne autre chose. Donc, maintenant, pour le troisième objectif, qui était de regarder les étapes menant à la formation de parrain aidant. Donc, les personnes qu'on a sélectionnées devaient être âgées de 18 ans et plus, avoir déjà souffert d'un TPA ou d'un TAS, avoir une condition stable et asymptomatique depuis au moins 1 an, qu'on a évalué avec l'ADIS, et puis aussi qu'ils soient aptes à mener à terme les activités programmées, donc la gestion des informations, leur capacité d'accompagnement et de soutien. OK. Donc, il y a 82 personnes sur 704 qui ont laissé leurs coordonnées à la fin du questionnaire pour qu'on les contacte afin de leur offrir une formation de parrain aidant. Sur ces 82 personnes, on a invité 34 personnes à une entrevue de sélection parce qu'ils avaient déjà reçu un diagnostic de TPA ou de TAS. Donc, pour l'entrevue de sélection, qui durait environ 30 minutes à 45 minutes, comme je disais, on a vérifié plusieurs critères. Puis, on s'intéressait à leur expérience, donc dans un groupe de soutien ou dans le soutien qu'ils pouvaient apporter à des personnes dans leur réseau. On s'intéressait aussi à leur intérêt à devenir parrain aidant, leur motivation, leurs points à améliorer selon eux dans la relation d'aide qui serait amenée à jouer, leur esprit d'équipe et de flexibilité. On vérifiait si les symptômes étaient stables. Puis à la fin de l'entrevue, on faisait un petit jeu de rôle où on amenait la personne à avoir un rôle de parrain aidant. Puis on vérifiait les disponibilités pour l'implication puis la formation. Donc, si on regarde les résultats, sur 9 personnes qui ont accepté de se présenter en entrevue de sélection, il y en a 5 participants qui se sont présentés. Sur ces 5 personnes, on les a retenus parce qu'on considérait qu'ils étaient des bons candidats, mais aussi on a un peu diminué nos critères au niveau de la stabilité des symptômes, étant donné que c'était un peu difficile là, de recruter. Et puis, finalement, 4 participants se sont présentés aux séances de formation. Puis, ces 4 personnes-là ne sont pas venues nécessairement à toutes les formations. Donc, rapidement, au niveau du contenu de la formation, c'était 5 modules, donc 5 formations d'environ 2h30. Puis, on s'est inspiré d'un programme qui a été développé par Marcus et Runji, qui avaient développé un programme comme ça d'accompagnement pour les gens qui souffrent de TPA. Puis aussi, on s'est basé sur ce qui avait été trouvé là, au niveau des réponses, des répondants pour les sujets, les thèmes qu'ils voudraient qu'on aborde dans la formation. Donc, le but de la formation, c'était d'amener le père aidant à développer trois rôles. Un rôle d'information, donc que la personne puisse identifier les différents symptômes des troubles anxieux, connaissent les services disponibles dans la communauté, autant les groupes de soutien que les hôpitaux, que les sites web, etc. On voulait aussi que les parents aidants développent un rôle de soutien. Donc, comment intervenir au niveau de la relation d'aide? C'est quoi les limites de la relation? C'est quoi les techniques d'écoute, etc. Puis finalement, on voulait qu'ils développent un rôle d'accompagnement, donc principalement au niveau des exercices d'exposition. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui souffrent de TPA ou de phobie sociale qui vont avoir de la difficulté à se rendre dans les cliniques spécialisées. Donc, le père aidant peut aussi avoir un rôle au niveau d'accompagnement, d'aller chercher la personne chez elle pour l'amener en traitement. Donc, maintenant, pour ce qui est de la discussion, ces résultats appuient l'utilisation du web pour rejoindre certaines populations présentant des difficultés d'accès au traitement, particulièrement les personnes qui ont des comportements d'évitement. Le web nous a permis de déterminer l'intérêt élevé des gens qui souffrent de troubles anxieux pour un service de parent aidant. Puis, on a pu aussi déterminer les préférences pour une formation de parent aidant, puis utiliser ces préférences pour développer la formation. Donc, au niveau des implications, l'étude qu'on a faite nous montre que ça peut être une bonne stratégie pour avoir accès à des personnes qui ont des problématiques particulières. Ça peut être un outil d'enquête pour développer une formation avant d'implanter un projet, d'aller utiliser cette stratégie-là pour rejoindre des personnes plus difficiles d'accès. Et une bonne façon aussi de recruter de futurs parents aidants, ça aurait été intéressant d'avoir peut-être aussi des gens des groupes de soutien. On en avait deux qui s'étaient montrés intéressés, mais finalement, ils n'étaient pas disponibles. Donc, ça aurait été intéressant peut-être de comparer parce qu'on avait 82 personnes qui étaient intéressées par la formation. 34 ont été invitées à une entrevue de sélection. Puis finalement, bon, on voit que ce qui est écrit sur le web puis qu'est-ce qui se passe en réalité, c'est deux choses différentes. Donc, ça aurait été intéressant de comparer. Puis ce que ça nous montre aussi, c'est que la formation peut être considérée comme un processus de sélection en soi. Donc, il y a le questionnaire web, mais aussi la formation, dans le sens que l'adhérence à la formation ressemblait un peu au groupe de thérapie qu'on peut donner, c'est-à-dire que les gens ne se sont pas présentés de façon régulière aux différentes séances de formation. Il y a eu plusieurs difficultés rencontrées là, par ces personnes-là. Donc, si on regarde les forces puis les limites, donc ça nous montre que le questionnaire web, c'est un moyen efficace d'obtenir les caractéristiques et les préférences d'une population difficile d'accès. Ça nous montre aussi l'importance de prioriser le développement de moyens facilitant l'accès au traitement, donc ce qui est diffusion plus large des informations dans la communauté là, par rapport aux services. Aussi, tout ce qui est moyen d'accompagnement de ces personnes-là, que ce soit les groupes de soutien, la vidéoconférence, tout ça. Au niveau des limites, bon, c'était un instrument qui était non standardisé. Mais en même temps, bon, comme la section sur le devenir parent aidant, c'était nouveau, on n'a pas eu le choix. Donc, ce serait intéressant de développer peut-être à ce niveau-là. Puis, au niveau des limites, bon, les diagnostics étaient auto-rapportés, donc ça ne permettait pas de s'assurer de la validité. Comme on n'avait pas un professionnel qui nous a directement dit que la personne avait un diagnostic de TPA ou de TAS. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires?